Vivre FM Podcast. De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Bonjour et bienvenue dans l'émission La santé mentale en question. Comme tous les premiers samedis du mois, émission spéciale Art et santé mentale avec le fonds de dotation Entreprendre pour aider. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Gilles Roland-Manuel, psychiatre, ancien directeur de l'hôpital de jour à Antony, président et fondateur du Festival du Futur Composé, Autisme et Culture, et Catherine Bonny, mezzo-soprano, créatrice de musique et handicap de l'ensemble Calliope, qui s'appelle depuis peu De plein cœur et de vive voix. Ils sont là avec François et Patricia pour nous parler du Festival du Futur Composé, association qui présente des actions culturelles et des rencontres entre les personnes autistes et des artistes, avec des ateliers de théâtre, danse, musique, art plastique. Et tous les deux ans, ils organisent un festival dans de grandes salles parisiennes qui fête ses 16 ans cette année et réunit une trentaine d'institutions spécialisées et associations. C'est de toutes ces créations et festivités que vont nous parler nos invités. Alors surtout, restez sur Vivre FM. Bonjour et bienvenue dans l'émission La santé mentale en question. Comme tous les premiers samedis du mois, cette émission, c'est l'art et santé mentale. Elle est réservée avec le fonds de dotation Entreprendre pour aider. Alors, j'ai des invités. Là, je suis bien entourée. J'ai le docteur Gilles Roland-Manuel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychiatre, ancien directeur de l'hôpital de jour à Antony, président. Alors, vous êtes venu surtout pour président et fondateur du Festival du Futur Composé. Mm-hmm. C'est ce dont vous allez nous parler. Et puis, vous êtes accompagné autisme et culture, mais ça, on va en parler après, de Catherine Bonny. Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes mezzo-soprano. Vous êtes créatrice d'une musique et handicap et de l'ensemble moi que je connaissais sous le nom de Calliope, mais qui s'appelle maintenant De plein cœur, de vive voix. Enfin,
De plein cœur, de vive voix, l'association qui soutient les vives voix.
Voilà. Voilà.
Et je dirige les vives voix.
Voilà. Et vous êtes venus accompagnés par François et Patricia, et qui vont nous dire ce que ça leur apporte et ce qu'ils vivent au milieu de ces associations. Donc, on va revenir au docteur Gilles Roland-Manuel. Donc, depuis combien de temps existe le Festival du Futur Composé ?
Depuis l'an 2000.
Voilà, ça fait quand même 15 ans,
oui.
Si je compte bien.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce festival? Alors, vous allez nous expliquer quand même, il y a du théâtre, de la danse, de la musique, enfin, il y a beaucoup de choses. Comme son nom l'indique, c'est composé de beaucoup de choses.
Oui, exactement. Je crois que l'idée d'origine, en tout cas en ce qui me concerne, c'est l'Italie, les réformes en psychiatrie. Il y avait La psychiatrie était dans un état au moins aussi désastreux que la psychiatrie française, c'est-à-dire essentiellement centrée sur les asiles.
Ouais.
Et il y a eu des changements très importants auxquels les artistes ont énormément participé. Donc ça, évidemment, ça m'a fait tendre l'oreille et écarquiller les yeux, si on peut dire. Et en rentrant d'Italie en 78... j'ai essayé, avec une association qui s'appelait le Cheval Bleu, d'établir des ponts entre le monde de la culture et voilà, celui de la psychiatrie. On a...
Mais en 78, ça ne devait pas quand même être évident, c'était pas très mode quand même. Là. On peut pas
ça
dire.
A commencé à être un peu mode avec la musicothérapie, l'art-thérapie en général, ça commençait. Et il y avait mais notre expérience à nous, peut-être on y reviendra, est assez différente en fait de celle-là.
Alors,
de l'art-thérapie.
Oui, oui, non, c'est d'abord quand même, l'art-thérapie, c'était quand même très peinture, c'était plus un art brut.
C'était aussi musique, c'était beaucoup de choses, mais si vous voulez,
il y avait le côté thérapeutique.
Les objectifs sont différents, oui, c'est d'ailleurs des objectifs tout à fait honorables, qui sont ceux de la thérapie. Évidemment, un psychiatre ne peut pas être désintéressé par la chose. Mais nous, ça s'est orienté un peu différemment, pour différentes raisons, qu'on aura peut-être le temps d'expliquer. C'est plutôt, si vous voulez, les jeunes gens autistes, puisque ça s'adresse essentiellement à eux, sont quand même très à l'écart de ce qui se passe dans la société en général. Et c'est plutôt une remise en contact. Vous voyez, les objectifs sont très modestes. Soigner... Oui. Alors peut-être ça rend les soins possibles.
Ah, oui. Voilà, ça rend le dialogue déjà possible.
Et puis, je dois dire aussi que sur le plan clinique, alors que ce n'est pas vraiment l'objectif, on peut constater les uns et les autres des améliorations, des progrès très sensibles, et que je crois quelquefois, on n'obtiendrait pas avec d'autres méthodes. Mais ça reste très relatif. C'est surtout une façon de vivre mieux. Je pense que les jeunes gens, par exemple, qui partent dans des aventures musicales avec Madame Bonny, vraiment, on leur vit, peut-être Patricia, que je connais bien, pourra vous en dire quelques mots.
Ben, bien sûr.
Mais ça, on a en tout cas le sentiment que ça peut véritablement changer leur vie.
Et, déjà, un bien-être, c'est quand même thérapeutique. Le bien-être, c'est l'essentiel.
Si on veut, mais ce n'est pas très spécifique. Or, il y a quand même des vertus assez spécifiques à utiliser ces médiations avec des jeunes gens qui sont quand même coupés de tout, hein, qui sont coupés de l'école, qui sont coupés de la culture ô combien. Voilà. Et en fait, le futur composé n'a rien inventé du tout. Il a juste fédéré. Mais c'est plutôt les petites associations ou les plus grandes qui se sont fédérées, mais qui avaient déjà une activité. Et qu'on a fédéré dans le cadre d'un festival tous les 2 ans. Voilà, le mérite du futur composé existe bien, il est là, mais ce n'est pas au-delà.
C'est déjà, il faut le préparer le festival, vous annoncez ça comme ça tous les 2 ans. Toute la préparation qui est intéressante en fait aussi. Et puis le festival, c'est
surtout la préparation. Parce que ce n'est pas un festival pour handicapés. Quoique l'idée ne serait peut-être pas mauvaise, mais ce n'est pas la nôtre. C'est un festival où des personnes handicapées ont une place réelle, très importante, où ils participent de façon très active avec d'autres.
C'est ça.
D'autres personnes qui ne sont pas handicapées et qui sont quelquefois même très averties dans les domaines que vous avez cités, à savoir la musique, le théâtre, l'opéra.
Ils sont bien accompagnés, en fait. Mais c'est accompagné par des professionnels, presque.
Voilà.
Ouais. Voilà. Et cette, alors tous les 2 ans, ce festival, il est ouvert, alors pareil, à tout public, ou comment ça se passe?
Oui, c'est ça qui fait un peu sa particularité. C'est-à-dire qu'au début, il y avait surtout les familles, on était bien contents que ce soit là, les autres institutions, les gens sensibilisés, intéressés, les militants qui sont les bienvenus, voilà. Mais on voit un peu toujours les mêmes, parce que c'est quand même pas le monde entier qui fait ça. Voilà. On est très content de pouvoir, et depuis assez longtemps, mettre des places en vente à la FNAC et dans tous les billets. Tous les billets sont en vente dans les canaux publics, si vous voulez.
Ça, c'est génial. C'est une façon d'être dans la vie en général, pour vous.
C'est une façon d'être dans une partie de la vie, parce que ça ne suffit pas, si vous voulez. Il y a comme ça des choses assez peu spécifiques, comme la culture ou l'art, dont très injustement sont privés. Enfin, les jeunes gens n'ont pas accès à ça, c'est pas normal, sont des citoyens. À plus forte raison, je dirais, quand ils ont des difficultés.
Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand même, qui n'ont pas accès simplement parce qu'il y a une méconnaissance. Il y a une non-culture, je dirais, quelque part.
Ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est qu'à la fois, donc, c'est assez peu spécifique, c'est à tout le monde, il y a la citoyenneté. Et puis, en même temps, ils ont aussi besoin d'accompagnement très spécifique. Certains jeunes gens ont des... Vous savez, on a un peu passé le temps, enfin apparemment pas tout à fait, mais un peu quand même, où on disait que l'autisme était une maladie. Je crois que c'est une idée tout à fait fausse. C'est un symptôme qui peut résulter de causes très très diverses. Les bagarres actuelles autour des prises en charge qui s'appuieraient sur des diagnostics précoces, on ne sait toujours pas très bien ce que c'est. Dans quelques cas, on sait. Et on sait que des causes très différentes peuvent produire des symptômes autistiques. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas de dire, de définir finalement très très finement ce qu'on connaît pas. Quand on connaîtra, on définira plus finement. Mais c'est de savoir ce qu'on fait avec ça. Et ce qu'on fait, ça peut être aussi, et c'est de plus en plus, des approches spécifiques. Par exemple, si un jeune autiste est aussi épileptique, qui malheureusement arrive quelquefois, eh bien, c'est savoir en même temps lui proposer, par exemple, une vie culturelle digne de ce nom, mais c'est aussi lui donner des traitements anti-épileptiques et puis s'occuper de sa sécurité.
Oui,
et puis voilà, vous voyez. Donc, il y a du spécifique et du moins spécifique. Le futur composé s'occupe donc de l'accès à des activités culturelles, et voire de la création. Peut-être c'est ça.
maintenant.
Oui, bah oui, c'est tout à fait clair. Par contre, on ne sait pas très bien comment ce futur s'est composé, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que ça a l'air facile comme ça quand vous dites tous les deux ans on a un festival. Mais il s'est monté comment au départ? Parce que vous avez des professionnels, alors on va peut-être demander après à Mme Bonny, mais vous avez des professionnels, et puis tout ce monde travaille ensemble et arrive à faire. C'est pas évident au départ.
Il est probable quand même que les artistes, et c'est un peu pour ça qu'on a fait appel à eux, toujours en fonction de cette expérience italienne. Moi, je me souviens d'une façon très vive de Dario Fo et de son implication dans l'ouverture de l'hôpital de Trieste. C'était très impressionnant. À l'entendre, ça sonnait comme une évidence, si vous voulez. Alors, je peux pas dire qu'en France, ce serait tout à fait une évidence pour tous les artistes, mais ils ont quand même des problématiques dans leur vie privée. Dans leur métier, ils se posent plus souvent, je crois, que d'autres, les questions de la limite, les questions de la normalité, les questions de la marge. Pour qu'il y ait un centre, il faut qu'il y ait de la marge, et pour qu'il y ait de la marge, il faut qu'il y ait un centre. Donc, il y a tout un travail autour de ces notions qui, dans le milieu artistique et culturel,
a bien pris.
C'est quasiment le passage obligé.
Oui, c'est intéressant. Et donc, le public, alors lui, parce que ça, c'est les personnes qui travaillent. Mais alors, au début, c'était les familles. Ça, c'est normal. Les familles devaient d'ailleurs être surprises de voir ce dont était capable leur progéniture. Ils sont surpris, les parents, au départ.
Ils sont toujours très surpris. Là, avant-hier, à l'Olympia, il y avait une salle debout, c'était presque plein. Donc, il y avait pas loin de 2000 personnes qui étaient emmenées par un de ces groupes qui est aussi fédéré dans le futur composé. Et ils ont véritablement mis le feu à cette salle. D'abord, il y avait un film qui a été fait sur leurs activités musicales. Et puis ensuite, il y avait le concert. Et c'était vraiment... On oubliait complètement, comme quand on entend la chorale de Catherine Bonny, on peut oublier complètement qu'il s'agit de jeunes gens, quelquefois en très grande difficulté.
Je pense que d'ailleurs, c'est fait pour ça.
C'est absolument fait
après,
pour ça.
Après, ce sont des artistes sur scène. Et c'est pas le problème qu'ils soient valides, handicapés ou pas.
Alors, moi-même, chère madame, qui ne les vois pour certains d'entre eux tous les jours, quelquefois, je ne les reconnais pas sur scène. Ce ne sont pas les mêmes jeunes gens. Alors ça m'impressionne beaucoup.
C'est magique.
Parce que quand on est vieux comme moi et qu'on travaille depuis aussi longtemps, on se dit qu'on devrait quand même... Eh bien non. Et les spectateurs, quelquefois, ne s'aperçoivent pas ou n'arrivent pas à croire que certains premiers rôles, notamment, certains rôles importants, sont tenus par des jeunes gens qui, sollicités dans les coulisses, par exemple, ou dans les couloirs, ne pourront ni expliquer, ni dire, etc. Bon, donc, si vous voulez, au-delà de la psychiatrie, qui est quand même un domaine très particulier.
Mais là, on est plus dans l'humain.
Voilà, exactement. Ouais. Ça dit quelque chose sur le dernier de la classe. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tous les enfants, si on trouve véritablement une façon de s'occuper d'eux, et c'est quelquefois pas facile, et en ce qui nous concerne, c'est pas très aisé, mais est-ce qu'on peut pas finalement, quand on en a les moyens, et surtout la volonté, eh bien, est-ce qu'on peut pas leur offrir à tous une insertion digne de ce nom?
Ben d'ailleurs, en vous voyant, on sent quand même que c'est aussi enrichissant. Parce que c'est pour ça que vous avez continué et que vous êtes très heureux de le faire, ça se voit.
Vous voulez dire aussi vieux que je suis.
Tout jeune.
Donc, pour arriver à continuer, il faut être motivé. Vous avez tout à fait raison, madame.
Les auditeurs, ils ne vous connaissent pas, mais vous n'êtes pas si âgé que ça. Donc, je leur dis, hein, parce que comme on n'est pas à la télévision, je le dis. On va faire une pause musicale et après, on entendra Catherine Bonny et puis François et Patricia. À tout de suite.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Nous sommes toujours dans l'art et santé mentale grâce au fonds de dotation Entreprendre pour aider. Nous avons entendu tout à l'heure le docteur Gilles Roland-Manuel qui nous a parlé du futur composé. Et là maintenant, je suis avec Catherine Bonny et puis François et Patricia qui vont nous parler de beaucoup de choses. Parce que moi, j'avais entendu parler de l'ensemble Calliope. Alors, qu'est-ce que c'est l'ensemble Calliope? Et puis après, l'association Plein Cœur, de Vie, tout ce que vous voulez, vous avez plein de choses à nous raconter.
Bien oui, parce que c'est un long parcours que de travailler avec ces jeunes gens, que de leur apprendre de l'opéra, de la chanson. C'est un long chemin. Et puis, on a des partenaires le long de ce chemin, Entreprendre pour aider en état. Et j'ai justement rencontré Entreprendre pour aider grâce à Calliope, l'ensemble Calliope, qui a développé et ouvert, plutôt ouvert, un département musique et handicap pour accueillir mon travail fin 2012, début 2013.
Alors vous, qu'est-ce qui vous a amené déjà à faire ça, déjà dans un premier temps ?
Alors, dans un premier temps, ça a été une rencontre que j'ai faite dans un IME. C'était l'IME d'alternance Bourg-la-Reine. J'y suis allée pour remplacer un ténor qui partait en tournée. Et je n'avais eu aucun contact avec le handicap avant. Pour moi, une personne handicapée, c'était un fauteuil roulant, une canne. Voilà.
Oui, comme la plupart.
Voilà, c'est tout. Et puis, j'étais très impressionnée, en fait. Je suis restée, je suis revenue. Et comme je dis souvent, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée et je suis restée dans lumière. Parce que ça m'a apporté énormément. Une chose fondamentale, en fait, je crois que j'ai appris à accepter mes peurs en travaillant avec ces jeunes gens. Et ça m'a fait grandir, ça m'a fait grandir sur scène en tant qu'artiste lyrique, ça m'a fait grandir au niveau de ma pédagogie vocale sur la voix. Voilà, ça a été une grande aventure que je n'ai pas quittée, en fait.
Ben oui, après même, vous êtes beaucoup
C'était
plus investie
2002,
encore.
2002.
Vous êtes encore plus investie.
Ben oui, parce que ça fait boule de neige, et puis voilà, il y a plein d'ateliers maintenant. Il y en avait un, maintenant il y en a 11 en Ile-de-France.
Alors comment ça se passe, ces ateliers
Alors ces ateliers, c'est toute une organisation. Il y a un pôle en Seine-et-Marne avec trois institutions. Il y a un pôle dans le 92 qui est géré par l'IME Jeune Apédia avec Laurence Genet, qui rassemble plusieurs institutions aussi. Et puis sur Paris aussi, il y a deux institutions qui participent à tout ce travail. Alors, on y va, j'y vais moi-même, mais aussi d'autres chanteurs lyriques
que je suis
en train de former. Voilà, donc il y a Antonia Bosco, qui est très belle mezzo-soprano, Christophe Redeg. Voilà, et je suis en train de former une nouvelle soprano, là, qui a très envie de faire ce travail.
Et oui, donc, vous avez passé votre passion, vous avez passé votre virus, là.
J'essaie de la passer, mais en tout cas, je passe le relais parce que j'ai vraiment envie d'une équipe de travail autour de ce travail de la voix, qui est à la fois le travail de la polyphonie aussi, qui est aussi un travail, comme disait Gilles, qui peut être thérapeutique, évidemment.
C'est toujours, de toute façon, je pense que prendre du plaisir à faire quelque chose, c'est thérapeutique.
Voilà,
pour tout
c'est
le
artistique
monde,
hein. Et thérapeutique, voilà. On va dire. Vraiment, fondamentalement.
Pour tous.
Oui, voilà. Pour tous, exactement. Voilà. Ça, c'est important.
Alors, oui, c'est important parce que si vous prenez du plaisir, je pense que ceux qui vous accompagnent, là, François, il prend du plaisir aussi. Alors, François, qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail? Qu'est-ce que vous faites, là, dans toutes ces aventures? Parce que ce sont des aventures, quand même.
Moi, je joue le rôle du docteur.
Ah, donc voilà, dans l'opéra Traviata, qui va être présenté au Festival du Futur Composé, François a été investi d'un personnage qui est le docteur, et vocalement, donc il chante le personnage du docteur.
Alors, quel plaisir on a à chanter? Qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous chantez?
Des fois, parfois, j'aime bien les mélodies.
Mais vous, alors, quand vous chantez, parce que je suppose que vous avez une belle voix, si on vous a choisi.
Il a une voix en devenir.
Voilà.
Voilà. Il a une voix en devenir. Voilà, c'est pas forcément une belle voix au départ, mais c'est une voix qui, par ce challenge-là, va évoluer. Ça, c'est très subtil. C'est pas forcément...
Si, je comprends tout à fait.
Voilà,
je pense qu'on n'a pas forcément une belle voix comme ça. Pas du tout.
C'est assez rare. Il y a des belles voix naturelles. Tout le monde ne chante pas juste, forcément. Voilà. C'est tout un travail à mener. Mais j'ai senti que chez François, le fait de lui donner ce rôle et cette responsabilité musicale allait le mettre en valeur et l'aider vraiment à pouvoir faire évoluer sa voix. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, c'est le chemin qui nous amène vers le spectacle qui est le plus intéressant. Le spectacle est là, il est important. Mais tout ce chemin pour y arriver, là se passe
les
choses.
Alors, François, comment ça se passe avec Catherine?
Ça se passe bien.
Et c'est agréable. Ça a l'air, parce qu'il est tout sourire, donc ça a l'air de se passer bien.
Il progresse bien. Il progresse bien, François.
Mais c'est ça qui est bien, c'est d'avoir une possibilité de progression. C'est bien, ça. Et alors vous, Patricia, comment ça se passe avec Catherine? Comment ça se passe? Comment vous êtes arrivée à chanter?
J'étais dans une... groupe qui s'appelle Le Cristal.
Mmh.
Et j'ai rencontré Catherine ou Mahabharata, comme par hasard, et j'ai fait les échauffements avec elle. Et après la fin du spectacle, je lui ai demandé son numéro parce que je voulais faire partie de sa chorale.
Ah oui, ça vous a plu, tout de suite?
Ça m'a plu, oui.
Ah, c'est bien, c'est bien. Et alors maintenant, vous continuez?
Oui, puis le chant, ça me fait beaucoup de bien. Ça... ça me touche, ça me rend plus forte, ça me donne du bonheur.
Ah, bah, franchement, Catherine, on sait pourquoi vous travaillez.
Ah bah oui.
Elle
ah.
m'a appris beaucoup de choses et quand je fais des sonores ou des sons, je monte jusqu'au contrut.
Ah oui, alors ça, je ne me rends pas compte, mais...
Patricia, donc effectivement, est venue vers moi lors du Mabarata, donc ça fait déjà un petit moment qu'elle travaille au sein des Vives Voix. Elle fait parfois des petits arrêts, puis elle revient. Elle aime beaucoup chanter les solos aussi, parce que ça lui permet de mettre en valeur sa voix. Mais elle a aussi appris à chanter dans le chœur, à dire parfois, c'est pas moi qui suis soliste. Voilà, c'est très important, parce que c'est tout un apprentissage important de cette humilité qu'on peut avoir... vis-à-vis du chant, de la musique, et d'être aussi dans une équipe qu'on respecte. Voilà. Donc, elle va avoir le rôle de Flora dans Traviata. Elle a beaucoup travaillé, beaucoup pour chanter ce rôle-là.
Alors, est-ce qu'on s'angoisse un peu à l'idée d'après du spectacle, parce qu'il y a un spectacle à la fin, ou est-ce que c'est un plaisir?
C'est du plaisir, beaucoup de plaisir à donner au public, être fière de moi et dire merci à ma prof.
Ah, c'est beau. Ah oui.
Oui, c'est une belle reconnaissance. Oui, très belle reconnaissance.
On sent, hein, on voit c'est vrai, Patricia, quand elle sourit et tout, on sent que c'est un plaisir. Ça se voit. Hein. Puis tout à l'heure, vous avez même chanté, vous avez une voix qui porte. Hein.
Oui.
Alors, vous avez combien de jeunes comme ça autour de vous?
Alors, pour le spectacle Traviata, on est à peu près une soixantaine.
Ah oui, quand même.
Voilà. Mais si on rassemble toutes les vives voix, c'est 120 à peu près, voilà, avec toutes les institutions. C'est-à-dire que pour les concerts, je demande aux institutions, quand on a les dates, s'ils veulent participer. Donc, ils ne participent pas à tous les concerts. Mais après, je forme mon groupe. Je fais le répertoire, mes distributions, mes pupitres. Il faut que équilibrer, parce qu'on chante en polyphonie. Donc, il faut que j'ai un équilibrage de ténor, de baryton. Voilà. Ça, c'est parfois un peu compliqué. Mais dès qu'on y arrive, on est content. On part en répétition générale. Donc, à partir de ces petits ateliers, où c'est le petit travail de fourmi, on rassemble, on réunit. Puis après, on fait une répétition plus grande avec tout le monde. Voilà, c'est vraiment...
Ça doit être magique, ça.
C'est une architecture.
Quand ça commence à s'architecturer, ça doit être génial.
Voilà. Ça part vraiment du travail de technique vocale pure, d'apprentissage des textes, mais qui se fait en équipe. C'est-à-dire que tous les éducateurs sont présents aussi. Enfin, les éducateurs qui accompagnent ces jeunes.
Ils pourraient réciter à la limite, ils pourraient, oui.
Ah bah oui, ils sont dans la même aventure. Hein. Oui. Ils découvrent qu'ils ont une voix et parfois, ils sont aidés par un jeune qui peut chanter plus juste.
Oui. Ah oui.
Et l'éducateur ne chante pas forcément juste. Bah oui, c'est comme ça. Et donc, le jeune l'aide et charge de revanche. Oui, il va aider le jeune pour le texte. Voilà, c'est vraiment...
Alors, si je comprends bien, vous êtes organisé. Donc, je n'avais pas tout compris. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est des petits ateliers.
Exactement.
Où chacun s'entraîne avec ses rôles, en fait.
Voilà.
Et puis après, vous architecturez ça pour arriver à ce que tout le monde...
À rassembler tout le monde, voilà. Ce n'est pas une chorale dans le sens habituellement, où on dit, bon voilà, il y a 50 sopranos, il y a 30 ténors, voilà. Non, non, c'est chaque individu est pris en compte avec sa voix, sa personnalité et aussi ses difficultés. C'est un coaching qui se fait, le placement des chanteurs est très précis, parce que si on met un adulte encadrant, et on le met à un endroit stratégique pour qu'il puisse aider certains jeunes, soit au niveau du texte, soit au niveau de la justesse. J'invite des chanteurs lyriques aussi à participer à l'aventure. Donc, il y a, je vous l'avais dit tout à l'heure, Christophe Rodeg. Ben oui. Il y a Paola Dalba qui est soprano, Lise Santellini qui sera présente aussi. Et puis d'autres chanteurs amateurs qui viennent aussi, qui viennent vivre cette aventure. Parce que, comme vous le disiez, ça leur apporte aussi.
Oui, bien sûr, c'est un échange.
C'est vraiment dans les deux sens. C'est un échange. Voilà, on vit plus pareil après ces aventures-là. C'est clair.
Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait, ça? Est-ce qu'ils reviennent après ces personnes à qui vous demandez de venir?
Oui, selon leur disponibilité.
Voilà, oui, bien sûr.
Parce que, par exemple, un travail comme le Festival du Futur Composé, c'est un gros travail. Il y a beaucoup de répétitions. Donc, il y a des gens qui sont disponibles, d'autres qui le sont moins.
Oui, bien sûr. Mais ils ont quand même tendance, s'ils sont disponibles, à revenir.
Oui. Oui,
oui, ça m'étonne pas. Oui. Non, je posais la question, mais ça m'étonne pas.
Mais même si l'équipe change, parce que les jeunes changent aussi, vous savez, la plupart sont des jeunes d'IME, donc parfois je les vois plus. Enfin, certains sont partis depuis que j'ai commencé, puis c'est des nouveaux qui arrivent, ça roule, et les éducateurs aussi changent. C'est pas les mêmes, et ça bouge aussi beaucoup, donc c'est toujours un travail à reprendre, à recommencer.
Ah oui, à chaque spectacle, à chaque fois, c'est
oui,
nouveau.
Oui, mais c'est ce qui fait aussi qu'on s'ennuie pas et qu'on ne peut pas se s'enterrer vivant. Voilà.
Mais Patricia, il y a un moment,
on peut pas être sur nos positions. Et dire,
Y est, c'est réussi, on refait la même chose en deux ans.
Non,
ça,
on cherche
possible.
Toujours, on avance toujours, on travaille toujours ensemble. Mais c'est un vrai travail d'équipe. Entre les éducateurs, et puis il y a les pianistes aussi qui viennent nous accompagner. Stéphane Litsch est un pianiste vraiment fidèle et aussi un compositeur qui a écrit vraiment des belles pages de musique pour nos jeunes qu'ils ont créées, des créations qu'on a fait à l'UNESCO en 2014 sur les chants de paix. Voilà, il nous suit depuis très longtemps déjà et... C'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille avec beaucoup de joie et de plaisir.
Ben ça, écoutez, on va faire une pause musicale parce que c'est... Et puis on a encore des tas de questions à vous poser de toute façon. On a encore quelques minutes à passer ensemble. À tout de suite.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
C'est déjà la dernière partie. Catherine Bonny, ça va vite hein, quand même, parce que c'est très passionnant. Alors, j'aimerais bien juste un éclaircissement. Je n'ai pas tout compris l'enchaînement entre le futur composé, l'ensemble Calliope, de plein cœur et de vive voix. Tout ça, je pense, on a bien compris comment ça fonctionnait, mais je n'ai pas compris les relations.
Alors, en fait, voilà, mon travail a été hébergé par l'ensemble Calliope, musique et handicap, et maintenant est pris en charge par l'association de plein cœur et de vive voix, qui est invitée par le futur composé pour participer. Voilà, en fait.
Ah oui,
et l'ensemble Calliope jouera aussi pour cette Traviata's Company, qui sera au Théâtre des Variétés les 3, 4, 6 et 7 juin.
Alors ça, il faudra le redire sur le site, oui, parce que c'est important.
Oui, voilà. Et je pense qu'on peut réserver dès maintenant les places.
Si j'ai bien compris, on les trouve à la FNAC, on les trouve un peu partout.
Exactement.
Ça, c'est génial.
Exactement. Donc, ça réunit plusieurs associations et aussi plusieurs artistes. Donc, l'ensemble Calliope va jouer sur scène. De plein cœur et de vive voix, ce sont les vives voix. Et le futur composé, c'est eux qui organisent vraiment tout ce spectacle.
Voilà. C'est plus clair.
Et de plein cœur a pris le relais de musique et handicap.
Vous êtes créatrice et vous êtes créatrice de musique et handicap.
Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, quand l'ensemble Calliope m'a accueillie, on a ouvert musique et handicap. Voilà. Et puis après, je suis partie un petit peu avec une association parce que c'était provisoire en fait. C'est pas leur.
C'est pas leur cœur de métier.
Voilà, leur cœur de métier. Voilà. Donc après, c'était en attente aussi que je crée mon association pour voler un peu de mes propres ailes. Voilà.
D'accord. Alors, ça, c'est bien. Et comment vous a aidé, alors, le fonds de dotation Entreprendre pour aider? Qu'est-ce qui vous a apporté?
Énormément, parce que déjà, ça a été une confiance d'avoir un partenaire qui croit dans ce travail, qui peut soutenir ce travail-là. Et c'est un travail, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment sur plusieurs niveaux. Il y a le travail dans les ateliers, les répétitions, les concerts. Et donc, Entreprendre pour aider a été présent pour nous soutenir, pour nous faire rencontrer d'autres partenaires. Voilà.
C'est ça, c'est très intéressant.
C'est très important.
Les associations qui se rencontrent, donc vous pouvez vous entraider.
Tout à fait.
L'habitude de le faire, quand même, là, si j'ai bien compris.
Voilà, voilà, c'est ça. Donc ça devient aussi une équipe, une grande équipe, en fait, de travail. Et puis, c'est aussi la confiance qu'on s'accorde l'un à l'autre sur... on a besoin d'être aidé pour faire ce travail-là, tout simplement, et on ne peut pas le faire tout seul.
Non, c'est impossible.
Et on a besoin de partenaires qui croient en nous et qui nous donnent envie aussi d'avancer plus loin. On ne peut pas avancer sans les partenaires. Et Entreprendre pour aider, depuis 2013, est avec nous. Oui.
C'est un partenaire.
Avec les vives voix, oui, tout à fait.
Et alors, là, vous préparez donc cette... vous en êtes où, là? Parce que c'est le juin, là, maintenant, c'est demain.
Oui, alors, voilà, on a commencé à donner en concert les premiers airs de Traviata. On était, pour la journée de l'autisme, le 2 avril, on était au Parc Floral avec la mairie de Paris.
D'accord. Patricia, vous avez déjà commencé à chanter, donc vous avez...
Ça fait 6 ans que je chante.
Non, mais là, je veux dire, pour le mois de juin, pour la Traviata, vous avez été dans les différents concerts là, dont on parle?
Oui.
Alors, comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé. Au début, j'avais le trac.
Ça, c'est normal. Hein, les artistes ont toujours le trac.
Et à un moment donné, je suis sortie dehors dans la Quand on était en répétition par la porte où il y avait une petite chaise, une table, je me suis assise. Catherine venait me chercher.
Elle dit, qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai mis en soliste, alors tu viens chanter.
Alors, vous y êtes allée?
Alors après, j'ai écouté ma prof. Et,
c'est bien.
Et dans ma tête, je me suis dit, je me suis rappelée que je me suis beaucoup entraînée. Et j'ai fait ce concert, mais j'avais une grimace.
Parce ah bon
que, parce que j'avais peur de louper, de ne pas être en même temps que mes autres partenaires, que Morgane et Claire Dexay.
Ah d'accord.
Claire Dexay fait partie des fleurs de, à fleurs de voix avec Catherine.
Mais en fin de compte, ça s'est bien passé.
Ouais, ma prof, elle était fière de moi, m'a serré dans les bras et m'a fait un bisou.
Oh, c'est beau. C'est vrai, donc ça s'est bien passé en fait.
Oui, voilà, c'est les premiers pas, c'est toujours inquiétant, c'est toujours troublant. Voilà.
C'est difficile. Hein.
Et c'est difficile parce que c'est une mise en, vraiment, c'est une mise en danger, mais en même temps, le plaisir est plus fort, vous avez bien vu. Hein. Le plaisir est plus fort d'y aller. Oui, alors on y va quand même et après on est heureux.
Il y avait un petit recul quand même, mais bon, il faut pousser un petit peu, c'est normal.
Il faut mettre en confiance, il faut être rigoureux aussi. Ah, tout le monde comptait sur elle, donc elle ne pouvait pas ne pas y aller.
Ouais, ouais. C'est François, c'est bientôt le...
Voilà, le 13 avril, il chantera...
Oui, bientôt, oui.
Il chantera le solo du docteur pour la journée de la voix à la MGEN, voilà. Ça sera la première fois vraiment qu'il le chante.
Le trac ou pas, alors François, vous avez le trac ou pas?
Non, je n'ai pas le trac, moi.
Ah, c'est bien.
Je ne suis pas angoissé, ça va.
Ah bah c'est bien.
Tout va très bien.
Si on pouvait tous être comme ça. François, on t'envie.
Oui.
Mais François a énormément avancé, parce qu'au départ, chanter, pour François, c'était terrible, il se cachait. Il se cachait pour chanter.
Oui, je me cachais, j'étais timide.
Oui. Ah oui, timide. Et bien alors maintenant, c'est bien.
Maintenant, il chante, il ne se cache plus. Et puis, la voix, depuis hier, on a fait une séance hier où la voix est montée dans l'aigu. Voilà, il a une voix de basse, baryton, et la voix a réussi à monter comme jamais. Voilà, alors maintenant que j'ai enregistré, je lui ai dit, tu sais, maintenant je connais, je sais que ta voix peut monter. Alors la prochaine fois, je te rappellerai de monter ta voix. Voilà.
Alors vous êtes combien comme ça? Il y a vous, évidemment, j'ai bien compris. Et puis autour de vous, d'accompagnateurs, de personnes qui sont là pour vous
aider? Alors il y a les éducateurs et les encadrants qui sont présents. Il y a aussi tous les directeurs d'institutions qui sont partie prenante. À chaque fois qu'il y a un concert, c'est toute une organisation. Voilà, donc c'est une équipe, une large équipe. Globalement, je vous ai dit, il y a à peu près 120 chanteurs quand il y a toutes les institutions. Voilà,
parce que j'avais oublié que vous faisiez chanter tout le monde. Même les directeurs d'établissement.
Aussi. aussi.
Alors, on dénonce
parce que vivre cette aventure, il faut la vivre, quoi. Voilà, maladroitement, il faut la vivre, il faut la tenter. Et puis, on ne peut pas s'en rendre compte de l'extérieur. Il faut vraiment être baigné dedans pour se dire, c'est ça, ce partage.
Ouais. Mais alors, au début, quand vous embauchez un directeur en disant, allez, moi, je veux bien que vous veniez, au contraire, c'est bien, mais allez, vous allez chanter aussi. Au départ, c'est un peu difficile, non?
Oui, alors voilà, il faut progressivement donner envie, il faut inviter, il faut...
Essayer,
voilà. Ça commence comme ça, il faut mettre en confiance.
Alors après, un directeur, il peut... les jeunes changent, puisqu'ils bougent, ils évoluent, ils vont ailleurs. Mais alors, les directeurs, ils peuvent revenir un certain nombre d'années, en fin de compte.
Oui, il y en a certains qui arrêtent parce que, bon, évidemment, c'est compliqué de tout faire. Ils ont un métier déjà très prenant.
Oui, mais...
Mais qui reviennent après, voilà.
Et qui ramènent des jeunes.
Voilà, ils ramènent d'autres jeunes. Et voilà, c'est toujours en mouvance, en fait. C'est ça, ce qui est formidable et qui est aussi difficile à gérer. Et à organiser.
Et alors, Patricia, il y a un moment que vous chantez et que vous avez commencé par le Théâtre du Cristal?
J'ai été embauchée il y a 7-8 ans, je pense.
Oui.
Après, j'ai démissionné parce que c'était un peu difficile. J'en prenais plein la vue, surtout par Patricia Azem, qui était une chanteuse. Elle n'est pas comme Catherine, elle n'était pas patiente, elle n'était pas...
Mais une Catherine, il n'y en a qu'une, hein. J'ai bien remarqué.
J'ai un projet pour plus tard.
Ah oui, alors qu'est-ce que c'est le projet?
C'est vrai que je suis dans une autre chorale aussi, à l'élan retrouvé.
Oui.
Et il me une fois en été, comme il n'y avait pas beaucoup de gens pour la chorale, elle m'a fait travailler toute seule. Elle m'a dit que j'étais une soprano. Pareil que ce que me dit ma prof de chant, Catherine Bonny, que je suis une soprano. Et elle m'a dit que ta voix est légère. Elle m'a dit aussi que je pourrais être une orthésirique si je travaille encore. Et c'est vrai que j'ai arrêté le chant pendant un an et demi parce que j'étais fatiguée, j'étais pas bien, donc j'ai arrêté. Alors, et ce qui m'a donné envie de reprendre, c'est Catherine, c'est parce que elle m'a dit ça me fait du bien. Quand je chante, ça me fait du bien et ça évacue mes problèmes, ça me fait du bien au cœur. Et puis après, quand on a chanté, on se sent légère, on se sent contente, on dit ça y est, on a chanté.
Donc vous voulez continuer, vous n'êtes pas prêt d'arrêter, si j'ai bien compris.
Non, je ne suis pas prêt d'arrêter. Et puis l'année prochaine, quand j'irai Vivoire, j'irai toute seule. C'est pas loin, Châtillon, Châtenay-Malabry. Voilà, on m'expliquera comment il faut y aller toute seule et j'irai toute seule comme une grande.
Pas de problème, ben voilà. Catherine, vous avez des émules qui ne sont pas prêts d'arrêter, là, j'ai l'impression.
Mais les choses évoluent, évidemment, les choses évoluent.
Et donc, je passerai des auditions. Catherine est d'accord pour m'aider.
Voilà, c'est parfait. Et alors, vous avez besoin aussi, Catherine, de différentes choses quand même. Alors, des artistes lyriques,
Et voilà, s'il y a des artistes lyriques qui nous écoutent, j'aimerais bien les rencontrer et puis leur proposer, effectivement, de faire ce travail. Parce que c'est un très, très beau travail et vraiment, j'ai besoin d'aide aussi, voilà.
Ben oui, ça m'étonne.
De passer des relais et d'avoir une équipe.
D'accord. Et puis, des locaux.
Et des locaux, des salles. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, on travaille avec plusieurs répétitions qui rassemblent les ateliers. Voilà, c'est toute une organisation, tout un planning. Effectivement, souvent, on manque de locaux.
Et qu'est-ce qu'il vous faudrait comme locaux? De quelle taille? Un peu, si quelqu'un nous entend, on ne sait jamais. Ça peut être...
Ça dépend, mais il faut des locaux qui puissent rassembler à peu près 60 chanteurs, si possible avec piano. Ça, c'est le mieux pour nous. Et puis, souvent, s'il y a une petite salle à côté, c'est bien. Comme ça, on peut mettre les deux groupes, on peut travailler en deux groupes et on peut rendre le travail plus efficace sur une séance d'une heure et demie ou deux heures. Voilà.
D'accord, j'espère que les gens nous entendront. Et puis alors, on va répéter juste avant de se quitter.
Oui.
Donc, le rendez-vous.
Voilà, rendez-vous, Traviata's Company, au Théâtre des Variétés, les 3, 4, 6 et 7 juin à 20h30, qui rassemble plein d'artistes du Théâtre du Cristal, des vive-voix, d'autres artistes lyriques, des danseurs, des professionnels, des amateurs. Le livret a été écrit par Gilles Roland-Manuel et la mise en scène est de Johanna Boyer.
Merci beaucoup et puis à bientôt.
Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.